Les visites de l'été. Danseurs et danseuses. 16e jour du 7e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Je suis d'abord descendue à la cité de Mut pour conduire mon rover dans une station de réparation. J'ai dû expliquer à la commanderie que nous avions été victimes d'une défaillance délictueuse. Franchement, à quoi servent mes rapports? En retour, la commanderie m'a soumise à un feu nourri de questions. Le rover, lui, a été scanné sous toutes les soudures à la station de réparation. J'imagine que la commanderie a aussi interrogé la tutelle de l'usine de glace d'Etken et le gardien des glaces lui-même, au bord du bassin du pôle sud. Puis la commanderie a replié ses longues antennes et elle est retournée à son silence intergalactique. J'aurai peut-être des nouvelles de ces investigations un jour. Il serait cocasse et inédit que je prenne un avocat pour faire avancer ce dossier. J'ai laissé le rover à la station de Mut Nadir, entre de bonnes pinces, et j'ai reçu les soins nécessaires. De tout cela, il ne me reste même pas une cicatrice. S'il faut faire le bilan de ce voyage, force est de constater que mon enquête sur la fièvre Aspic n'a pas avancé d'un pouce. Et je me retrouve avec un autre mystère sur les bras, lequel, pour le coup, ne concerne pas grand monde. Qui a essayé de nous détruire, le rover et moi? Et pourquoi? Mais j'ai de bonnes nouvelles pour Trim. J'ai appris que, malgré la fissure de la côte 237, la ferme Lalande est encore debout. Et que les devis des travaux sur le dôme de la ferme ont enfin été validés et mis en commande. Tout ça est très satisfaisant. J'escompte un début de ces travaux au plus tôt. Les bottes d'entretien du dôme se tiennent à la disposition du maître d'œuvre. Une fois de retour à la ferme, j'ai raconté mon voyage à Trim tandis qu'un aspirateur ôtait le reste de régolithes qui me colonisait. Il m'a écouté en ronronnant. J'avais gardé le meilleur pour la fin et Trim a miaulé de joie quand je lui ai parlé de son ADN. Il a regardé avec une passion frémissante les vidéos de Vidette et ses chatons. Ses yeux luisaient comme des boutons d'or et sa queue faisait des boucles sans fin. Puis il s'est endormi sur le tabouret proche du mien. L'émotion, sans doute. Un petit bout de langue dépassait de sa lèvre. Je me suis sentie assaillie par l'harmonie parfaite de ce pétale rose, comme tombée par un merveilleux hasard sur une fourrure noire. Dans l'autre sens, je me suis sentie sortir de moi-même, à la rencontre de l'extrême confiance que m'accorde ce chat au point de s'endormir près de moi en m'offrant la grâce secrète de son sommeil animal. Ce croisement d'images qui éclate en sensations dont les ondes de choc ricochent par tout mon corps, puis entrent en résonance pour venir bousculer ma pensée, c'est ce qu'on appelle couramment une émotion. Être ému n'est pas quelque chose d'habituel pour moi. Je suppose que le taux exceptionnel de radiation auquel j'ai été soumise dernièrement aura abîmé une série de contrôles. J'ai appris qu'Evelang, le père de Nusson et l'éleveur d'un érable palmé bonsaï, est mort de la fièvre aspic récemment. J'ai demandé à Loris de veiller sur l'érable palmé. Et je me suis promis de reprendre mes recherches sur la fièvre aspic. Quand Trim s'est réveillé, je lui ai assuré que nous retournerions ensemble à la cité franche cet hiver, rendre visite à Vidette et ses chatons. Il m'a dit vouloir des enfants. C'est bien la première fois qu'il évoque cette possibilité. Je vois très bien 4 chatons sur mon établi, dormant entre les serfouettes et jouant avec mes boutures. 28e jour du 7e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Les migrations de la belle saison ont commencé et la route qui mène à la cité de Mut fume tout du long dans le chatoiement des mini-colas. Par migration, j'entends de nombreuses visites à la ferme, essentiellement de citadins, quelquefois de plantes ou d'animaux qui ont besoin de changer d'air. Je reçois beaucoup à la ferme Lalande, l'été, et d'abord des danseurs. Ce qui rend les travaux de réfection de l'étanchéité du dôme encore plus urgents. Sous la coupole sud, après les muguets et les jonquilles, les danses fleurissent. Car j'ai ici de l'espace et de l'air pour bouger en toute liberté, et un plafond clouté de diamants. Il faut bien laisser la magie s'épanouir, afin de peupler le vide. Et la danse est une opération magique sur toutes ses facettes. Arrivant par rovers entiers, danseurs et danseuses s'extraient en riant de leurs scaphandres et défroissent leurs belles tenues colorées. Ils se mettent en ligne sur l'herbe, chuchotant entre eux dans le silence qui s'installe. Ils commencent à onduler imperceptiblement dès que les premières notes s'élèvent et, après 2 ou 3 mesures, se détachent de leur position comme des pollens quittent la corolle, soulevés par le souffle de la musique. À mesure que le temps s'écoule, les visages se font plus souriants, tandis qu'une odeur puissante monte des corps en sueur. De toute évidence, la danse resserre les liens et favorise le brassage familial, amoureux et amical. Mais elle révèle aussi des rivalités et des frictions qui se résolvent heureusement en gambades furieuses et entre chats vainqueurs. La danse préférée des danseurs de la cité de Mut est le grand voyage vers la lune, dans toutes ses majuscules. Il déborde d'inventivité pour mimer le poids des jets terrestres, la puissance de l'envol des navettes et la délivrance de la pesanteur. Les premiers lunaires étaient capables de faire de grands bonds de joie qui les emmenaient plus haut qu'eux, mais il y a longtemps que les citadins sous-lunaires n'ont plus la musculature de leurs ancêtres. Les danseurs imitent ensuite le tumulte de l'alunissage et, enfin, la découverte des sables de la lune se déroulant à l'infini. Ils se tournent alors tous ensemble vers la paroi transparente du dôme et tendent à l'unisson leurs bras nus pour saluer les vagues bleues de la mer des îles. La danse finit ainsi, par une moisson de mains qui s'élève et retombe dans la clarté terrestre. Il y a bien sûr, pour clore la session, quelques chansons obscènes et des tangos qui s'achèvent dans les buissons. Ça ne va pas sans dommage pour mes plantes. Cependant, je ne regrette rien à cause de la beauté des danses. Ce n'est pas très agricole, mais c'est esthétique. J'ai demandé des nouvelles de mon rover, mais la station de réparation de Mut l'a déjà remis dans le circuit et n'a pas su me dire où. Ça me semble anodin, le traçage des sorties de matériel est habituellement assez mal géré. J'ai lu tous les rapports de Dekoda, le cuisinier, sur d'éventuels liens entre les différents régimes alimentaires et la fièvre aspic. Toujours aucune piste. Troisième jour du huitième mois de l'an 2325. Ferme la lande. Alerte de sécurité. Les préconisations du maître d'œuvre des futurs travaux de sécurisation du dôme de la ferme Lalande me paraissent satisfaisantes. J'ai bien conscience que personne ne peut stabiliser le sol lunaire. Pourtant, envisager un renforcement ciblé du soubassement en s'appuyant sur un nouveau carottage est une excellente initiative de sa part. Je demande instamment qu'il remplace la dalle fissurée le plus vite possible. La fissure mesure maintenant 3,42 m et elle a quasiment traversé la dalle de part en part. Heureusement, les bottes d'entretien ont posé d'épais renforts de duraglace qui tiennent encore. Le bon ordonnancement des danses de la ferme Lalande ne saurait se passer d'un maître ou d'une maîtresse à danser, nommée Batkan. La Batkan avec laquelle j'ai le plus de plaisir à m'entretenir est Sameime. Une béringienne dont le large visage semble sorti d'un moule à princesse. Une fois la danse engagée, elle ne dédaigne pas de venir à côté de moi pour que nous la commentions ensemble. Son éloquence est fleurie comme un buisson de camélia. La dernière fois, nous avons commencé par parler de la terre grise. En ce moment, on ne parle guère d'autre chose dans toutes les cités de la face bleue. Puis Sameime m'a posé une question curieuse. D'après vous, parmi toutes les entités qui peuplent le vide, quelle est notre particularité en tant qu'individu conscient? Être un regard sur ce qui nous entoure? Je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris, non la question, mais la raison pour laquelle Sameime me l'a posée. Peut-être ai-je ramené de mon voyage une attitude plus ouverte. D'habitude, on ne me consulte que sur des questions d'engrais ou de tour de rein. Et, toujours d'après vous, est-ce que la disparition de ce regard serait regrettable? Que dire? Si ce serait regrettable? Du point de vue de la conscience, oui, car les consciences n'aiment pas s'éteindre. Du point de vue du reste? Non, le reste n'a ni point de vue ni regret. J'en étais à me demander quoi répondre, tandis que quelque chose de rigide en moi avait déjà pris la parole. Absolument pas. Ce qui est rigoureusement exact. Mais du point de vue de mon interlocutrice, je me suis montrée d'une honnêteté blessante, et cela de façon volontaire, bien que ce soit une forme de volonté que je ne maîtrise pas. Ce qui constitue le contraire de la volonté. Me voilà partagée à l'intérieur de moi-même, et bien embarrassée de choisir une voie unique, n'ayant qu'une bouche. J'en ai éprouvé une confusion qui dure encore et qui m'irrite. La question de Sameime m'a plongé dans d'étranges réflexions, qui ont duré bien après que les derniers rovers chargés de danseurs ont quitté la ferme. Je me suis rappelé les non-sens que j'ai pu lire au sujet de l'homme. Seul parmi les animaux, l'homme jouit du terrible privilège de la raison. L'homme, avec son cerveau, peut transpercer le mirage enivrant des choses et contempler un univers figé dans la plus parfaite indifférence. L'être humain n'est pas seul à être, à avoir été, doué de raison. Mais hélas, il a depuis longtemps transpercé au cœur les baleines et les porcs, et ces délicieux convives qu'étaient les dauphins et tous les autres hominidés, et les fins labres bleus, si curieux de tout. Qui reste-t-il? Les chats et les chiens, oui. Les poulpes dans leur aquarium. Quelques oiseaux. Mais même pas la corneille et ses subtiles abstractions. Depuis, l'humanité se plaint d'être seule face à l'universelle indifférence. Quel rêve nébuleux poursuivait-elle, tandis qu'elle détruisait sans même y penser ce qu'elle osait appeler des choses. Ce dialogue avec moi-même m'a lassé. Il s'est pourtant poursuivi, ou plutôt ma pensée a été poursuivie par des mots cruels. Pour palpiter de vie, il est bon que la conscience se trouve éblouie par le réel, sans être terrifiée par ses convoitises et ses désirs. J'ai compris que le désir de voir s'il est qui est toujours en moi, comme une convoitise terrible, et que son absence est un obstacle contre lequel je bute, comme un robot fou qui se heurte sans fin au même rocher. Je crois l'entendre murmurer « Je sais que je te manque ». Il me semble que les beaux paysages que j'ai édifiés dans la ferme Lalande perdent leur harmonie depuis que ses yeux ne sont plus là pour les voir. Et j'en viens à la rêver, ombre légère, assise à côté de Reine Constate près de la glycine. Ils parlent ensemble des trésors de la mer. J'ai l'impression que des morts me causent tout bas et que je suis terrifiée. Ainsi nous luttons, comme des bateaux contre le courant, sans cesse repoussés vers le passé. Le retour à la ferme ne s'accompagne pas, comme je l'attendais, d'un retour à la normale de mon fonctionnement. Je palpite de vie. C'est très désagréable. Je sens mon torse comme oppressé et j'éprouve une envie déraisonnable de crier sur tout le monde, à commencer par mes visiteurs. Loris m'a envoyé un habitant de Mute, un plant anémié d'Asparagus plumeti, dans l'espoir qu'un changement d'air lui ferait du bien. Je lui ai confié un de mes litchis pour la même raison. Les plantes aiment voyager plus qu'on ne le pense. L'Asparagus m'est arrivé tout tendu, ses cladodes aussi rebiquées qu'un rince-bouteille. Peut-être qu'à Mute, il avait été placé près d'un hortensia. Ces deux-là ne peuvent pas se supporter, même si c'est le plus souvent l'hortensia qui perd. Le gardien des glaces m'a contacté. C'était pour me parler, lui aussi, de ce que nous avons tous constaté depuis quelque temps. La terre est en train de grisonner. Sa douce teinte bleue se givre, elle pâlit. Le gardien des glaces ne la voit jamais, néanmoins il se dit concerné. Que se passe-t-il là-haut? Il y a plusieurs hypothèses, mais aucune n'a reçu de confirmation. Pourtant, le phénomène était attendu. Il a même beaucoup tardé, d'après les géomaticiens. Il parle d'hiver volcanique, d'hiver nucléaire. Il soupçonne l'explosion de centrales abandonnées ou des éruptions monstrueuses. Bientôt, la Terre sera aussi blafarde que sa lune, aussi grise que les vagues figées du régolithe sous le feu des étoiles. Sans sa lumière bleue, les mini-colas ne brilleront plus comme des saphirs. 9e jour du 8e mois de l'an 2325. Ferme Lalande. En été, je reçois à la ferme Lalande, après des meutes de danseurs coloriés, des hôtes de marque un par un. Ce sont souvent des religieux. Ils viennent s'assurer de la persistance du ciel, je suppose. Et en ce moment, ils veulent surtout constater de leurs yeux ce qui arrive à la terre. Ils l'appellent la pâleur. Ils en font un événement eschatologique et polissent déjà de nouveaux versets pleins de culpabilité. Le premier des hôtes de cette saison était un minuscule pasteur d'âme, d'un culte syncrétique très couru. Plusieurs correspondants de la cité de Mute me l'avaient recommandé avec fébrilité. Je m'attendais à un dragon, et j'ai vu une ravissante statuette de vieil ivoire couverte d'or, escortée par des servants vêtus de blanc éblouissants, comme de grands cygnes traînant leurs ailes. Il y en avait au moins 6 rovers pleins de ces oiseaux. Leur venue ne m'arrangeait pas, j'étais dans les groseilliers. Cependant, j'ai tâché de leur faire bon accueil malgré une exaspération croissante. Le vieux pasteur ne s'exprime que par gestes, cela fait partie de ses vœux. Alors qu'il venait vers moi, ses servants immaculés déversaient sous chacun de ses pas des fleurettes de papier qui gâtaient ma pelouse, mais je me suis abstenue de tout commentaire. Les rapports avec le personnel religieux nécessitent beaucoup de tolérance. Ses devoirs spirituels exigent souvent qu'il piétine les convenances de son interlocuteur, aussi il n'y a qu'une alternative, l'éviter ou se plier à ses bizarreries. Ce pasteur-là s'est révélé agréable. Nous nous sommes tenus compagnie sous l'œil révérencieux des servants. Une bernache s'est approchée de nous, le pasteur et elle se sont regardés un moment. La bernache tendait son long cou flexible en entr'ouvrant le bec, Je suppose que le scintillement de l'aube toute rebrodée d'or la fascinait. Le pasteur lui souriait. La paix de l'instant m'a réconcilié avec cette visite éternelle. Finalement, la bernache est partie en secouant son plumage autour de son croupion arrogant. Le pasteur s'est levé et s'est éloigné à son tour. Un des servants est venu, un peu plus tard, me demander que je cède la bernache à son pasteur. J'ai refusé. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas donner un animal libre et que personne ne le pouvait, que cette bernache appartenait à son monde et lui était indispensable. Mais voilà. Les oiseaux qui nichent au sol sont, dans la religion du pasteur, des symboles majeurs. Ils sont tous voués, symboliquement, à véhiculer la parole de Dieu et à accompagner les morts vers l'au-delà. Ce qui revient à dire que les tenants de ce culte se considèrent comme propriétaires de droits divins de toutes les bernaches de la Lune. Le servant a insisté jusqu'à ce que les rovers repartent vers la cité de Mut avec leur cargaison de cygnes et leurs précieuses poupées dorées. Tant d'exigences m'a agacée. Une si complète méconnaissance des écosystèmes m'a irritée. Ce ne sont pas des émotions agréables, et elles m'ont déconcentrée au milieu de mes groseilliers. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été seulement un peu déconcertée, et ça n'aurait pas nui à mon travail. La bernache, qui n'est pas idiote, s'était réfugiée au milieu de l'étang. Il a fallu que je la convainque qu'elle ne risquait rien. Sûrement, si le regard humain disparaissait, il ne laisserait pas derrière lui beaucoup de regrets. Sans compter qu'il ne laisserait pas derrière lui grand monde pour le regretter. L'asparagus a retrouvé un beau port retombant, léger comme une buée verte. À la cité de Mut, mes litchis, paraît-il, reprennent des forces. J'ai demandé des nouvelles de mon rover auprès de Sérige, qui s'occupe des matériels roulants de la cité de Mut avec un soin méticuleux. Mais son identification s'est perdue. J'estime le fait peu crédible. Je le trouve irresponsable et irritant. J'ai consulté les avis des allergologues concernant la fièvre aspique. Toujours rien. Et je n'ai pas de nouvelles du maître d'œuvre des travaux de sécurisation du dôme, ce qui n'arrange pas mon humeur. Le danger est pourtant présent, permanent, avéré, réel, et il augmente sans cesse. Décidément, tous mes rapports, mes alertes et mes signalements ne servent à rien. Je vais les suspendre un moment, jusqu'à ce que je sois plus calme.